C'est là. Ensuite, on lui demande d'amener de la nourriture à sa grand-mère, qui est souvent dans un village de l'autre côté de la forêt. Donc la forêt est toujours importante et on verra pourquoi. Et elle va rencontrer non pas un loup, mais un bzou. Donc important aussi. Et elle ne le rencontre pas n'importe où, elle le rencontre à un carrefour. D'accord? Et là, au carrefour, le comte, le bzou va lui poser une question très énigmatique. Est-ce que tu prends le chemin des aiguilles ou est-ce que tu prends le chemin des épingles? Avec ça, débrouillez-vous. Surtout que toutes dans les versions qu'on voit, la plupart du temps, on le prend soit le chemin des aiguilles, soit le chemin des épingles. On ne sait jamais vraiment s'il y a une solution et on verra que c'est quelque chose qui a fait couler beaucoup d'encre, mais bon. Ouais. Donc, eh ben, quand elle a pris son chemin, le bzou, bien sûr, va aller chez la grand-mère. Hein, et chez la grand-mère, il va tuer la grand-mère, hein, de façon très, très, très technique. Voilà. Et quand il a bien tué la grand-mère, on ne dit pas, dans toutes les versions, on ne dit pas qu'il a mangé de la grand-mère. Mais par contre, il a laissé de la viande dans une bassine, hein, et du sang dans des bouteilles. La petite fille arrive, elle essaye de rentrer, hein, et puis elle n'y arrive pas. Donc, vous rappelez, hein, tire à la chevillette, tire à la bobinette, la chevillette chéra. Hein, voilà. Donc, la belle formule que Perrault a inventée, parce que c'est pas tout le temps ça. Et dans la version qui, moi, m'intéresse, on nous dit que la petite fille, la grand-mère Bzou, lui dit, si tu veux rentrer dans la maison, t'as qu'à rentrer par la chatière. Et on nous dit que la petite fille, là, c'est important, rentre les deux pieds devant par la chatière. Donc là, pareil, dans l'antre de la grand-mère. C'est pas n'importe où, c'est bien dans l'antre de la grand-mère. Quand elle est à l'intérieur, bah, à la fin, elle a parcouru le chemin hein, jusque-là, voilà, et elle demande à manger, et le bzou lui dit, bah, écoute, tu as de la viande dans la bassine, tu as du vin sur la table, sers-toi, et on nous dit que la petite fille va bien sûr allègrement faire cuire sa grand-mère. Et puis la dévorer avec beaucoup de plaisir, avec toujours un animal ou le bzou lui-même hein, qui lui dit qu'elle est en train d'accomplir un acte. C'est pas vraiment un tabou, c'est une prévention plus que même si c'est des fois un peu cru. Hein, certaines versions vont le poser comme un interdit, mais pas toutes les versions. On va voir que c'est pas inintéressant non plus dans ce sens-là. Quand elle a bien mangé, ben, elle veut rejoindre sa grand-mère dans le lit. C'est qu'elle pense encore être sa grand-mère. Voilà. Et elle se déshabille avec cette fameuse phrase qui est tout à fait signifiante quand on connaît un petit peu les règles du jeu de ce conte. Mets tes vêtements au feu, tu n'en auras plus besoin. Elle va se mettre donc en relation avec le corps du loup. Là, elle reconnaît bien que c'est pas vraiment sa grand-mère, même s'il y a des choses qui peuvent prêter à confusion, on verra après dans l'analyse. Hein, voilà. Les poils, les dents, hein, mais bon, au bout d'un moment, elle n'est pas tout à fait sotte dans cette version, on s'aperçoit bien que c'est pas la grand-mère. Donc, elle prétexte un besoin urgent, le côté scatologique qui vient là. Le bzou comprend bien qu'il est détecté, donc il dit, OK, je te laisse sortir, mais je t'attache, et donc il lui met une ficelle souvent à la cheville. Elle sort cette fois-ci par la fenêtre, c'est pas toujours par la porte qui reste fermée, en tant que telle. Et tout en tenant le fil tendu pour que le bzou ne s'aperçoive de rien, l'attache à un arbre qui n'est pas n'importe quel arbre, mais souvent un arbre fruitier. D'accord? À partir de là, elle prend la fuite. Elle est dans le jardin. Le bzou s'en aperçoit. Il se met à la poursuivre. Et la dernière image qui est vraiment fondatrice pour moi de bien, bien des réflexions, c'est les lavandières qui sont chacune d'un côté de la rivière. Quand elle la voit arriver, elle se lance un bras et la petite fille, toute nue qu'elle est, part retrouver sa maison. Et quand le bzou est au milieu du drap, il lâche les quatre coins et le bzou est emporté par la rivière. Voilà. Donc ça, c'est le conte qui est pas plus long qu'une chanson, comme disent les chercheurs, hein, mais qui nous dit tellement de choses. Et on va essayer de comprendre un petit peu ce qu'il y a derrière les mots. Parce que c'est tout le problème qu'on a aujourd'hui avec les contes merveilleux, c'est qu'on les lit comme de l'information. D'accord? On a perdu ce sens de l'analyse symbolique et le sens de la perception analogique. y avait derrière tous ces éléments-là. Donc il y a toute une rééducation à faire, si on veut travailler avec le conte merveilleux, qui n'est plus du tout appris dans le bon sens. On s'en sert comme outil littéraire, mais pas comme outil de création de sens. Alors on va reprendre grâce au travail donc de Yvonne Verdier. Moi j'invente rien, je suis allé voir Yvonne Verdier et d'autres chercheurs aussi sur ces analyses de version. Et voilà à peu près ce qu'ils nous disent. Alors déjà la première image, elle vient d'user trois paires de sabots de fer ou en vêtements de fer. Donc là Yvonne Verdier en faisant son travail de collecte à Millau, pas très loin de Dijon, d'ailleurs c'est peut-être les points qui sont par chez nous là-bas. Elle nous dit, voilà, donc nous, dans cette tradition, mais on le retrouve dans toute la fameuse répartition du bassin de la Loire, quand une famille n'avait pas de quoi nourrir les enfants, les filles, on les louait dans d'autres fermes. D'accord? On les louait dans d'autres fermes et on les louait en général pour 7 ans. Et on les louait à partir de 7 ans. 7 ans, 7 ans, 14 ans. Et être loué dans une ferme, c'était pas marrant du tout. On vous faisait faire toutes les tâches difficiles. Les lessives d'hiver dans l'eau froide, etc. Et on patchait, comme on disait. On ne savait pas écrire, donc on n'avait pas de contrat. Mais on patchait en disant, ta fille, elle reviendra quand elle aura usé trois paires de sabots. Et trois paires de sabots, c'était 7 ans pour les user. D'accord? Donc nous, on n'a plus ces clés-là. Mais le conte nous dit bien une chose, c'est que quelque part, ce conte n'est pas fait pour les enfants. Il est vraiment fait pour les adolescents, eux, qui ont plus de 15 ans, 14-15 ans. D'accord? Donc on est déjà dans un endroit qui est très 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 précis en tant que tel. Donc elle ne pourra aller ramener à sa grand-mère que si elle a cet âge-là. D'accord? Donc on va continuer le conte. On nous dit qu'après elle va amener de la nourriture à sa grand-mère. Alors ça, c'est assez classique hein, dans les villages. On allait très très souvent voir la grand-mère pour amener de la nourriture, mais aussi d'autres. Les enfants étaient chargés plus ou moins de faire la jonction, d'amener comme ça des provisions qui manquaient, de cet ordre-là. Mais par contre, quelque chose qui n'est pas du tout, comment dire, qui n'est pas du tout en tous les cas régulier au quotidien, c'est la traversée de la forêt. Et la forêt, bah écoutez, dans toutes les civilisations, c'est le lieu par excellence de l'initiation. On fait toutes les initiations traditionnelles dans la forêt. En tous les cas, dans un lieu hors social. Donc, dans certaines zones, ça peut être le désert, ça peut être la banquise, mais c'est un lieu où il n'y a plus, en tous les cas, de régularité sociale. Donc dans cette forêt, bah, il y a des chemins, il y a un carrefour. Donc voilà, bah, 14-15 ans, à cette époque-là, en tous les cas, aujourd'hui je dirais que c'est plutôt 12-13 ans, mais à cette époque-là, à 14 et 15 ans, on était sur ce carrefour. Et on verra que toute la tradition des jeunes filles est vraiment basée sur cette notion de changement de statut en tant que telle. Et là, on rencontre un bzou. Alors le bzou, pourquoi? C'est parce que quelque part, le loup va éveiller en nous tout un endroit de la dévoration. Et ce n'est pas le bon endroit dans ce conte-là. Le bzou, c'est un initiateur. Il est là pour que les choses se passent. Il n'est ni bon ni mauvais. D'ailleurs, à la fin, quand on le laisse partir dans la rivière, souvent on nous dit qu'il est mort. Il est mort en tant qu'initiateur. Il n'est pas mort du tout en tant que bzou. L'initiateur, il en aura besoin encore. Et donc la question qu'il va poser, c'est une question qui a été, c'est la question, est-ce que tu prends le chemin des aiguilles ou est-ce que tu prends le chemin des épingles? Alors ça, jusque aux années 50, on trouvait ça absolument ridicule, même de la rue. Alors, on dit que c'était un plaisir enfantin, mais que pour les adultes, c'était vraiment complètement tordu, ça servait à rien. Soriano d'ailleurs, dans sa thèse sur Perrault, dit la même chose. Voilà. Donc pour la plupart des gens, ça ne voulait rien dire. Jusqu'au travail d'Yvonne Verdier, elle, par contre, à Millau, va travailler avec des couturières et des lavandières. Et s'aperçoit que chez les couturières, il y a une tradition. C'est-à-dire, quand on a 15 ans, on va passer un hiver chez une couturière. Alors, pas pour apprendre, comme on dit, à travailler avec les aiguilles, mais pour travailler avec les épingles. Or, les épingles, bah, c'est quoi? C'est ce qui servait de satisfait, comme on dit. C'est-à-dire que c'est vraiment l'apprentissage de la séduction, c'est l'apprentissage de la présentation, de la représentation du passage de la petite fille à la jeune fille, pas la femme, la jeune fille. Voilà, donc il y a toute une tradition où, quelque part, les épingles, on en jette même dans des bassins, en fonction du temps qu'elles mettent à descendre, on sait que dans combien de temps on va rencontrer son amoureux, etc. Il y a vraiment toute une série d'éléments sur les épingles qui sont extrêmement précis dans toute cette tradition-là. Hein. Les aiguilles, par contre, bah oui, les aiguilles, c'est beaucoup plus, on va dire, en relation au sexe, en tant que tel, à la sexualité. Hein. Et il y a toute une série de chansons paillardes qu'elle va trouver chez les couturières, qui étaient chantées en présence des jeunes filles en apprentissage, hein, où on passe le fil dans le chat, etc. Je vous laisse faire les métaphores que vous voulez. Mais ce sont vraiment des chants ou des éléments qui sont dans l'éducation sexuelle de la jeune fille. Donc, qu'est-ce que demande le bzou? Où tu es née? Jeune fille ou femme? Carrefour. On est encore dans cet entre-deux. Pas tellement de conscience de la jeune fille qui part amener de la nourriture à sa grand-mère. Donc, on prend un chemin ou l'autre. Hein, peu importe. On est vraiment dans tout ce travail-là. Il y a vraiment tout un travail derrière de connotation. C'est ce que nous on appelle les ethnotextes en fin de compte, c'est-à-dire que c'est une image qui ramène à tout un quotidien, à toute une tradition, et que tout le monde comprenait à l'époque. La problématique aujourd'hui, c'est qu'on n'a plus ces clés-là, et que les enfants qui nous écoutent ne les ont plus non plus. Hein, voilà. Donc c'est comment on va nous avoir à travailler pour que cet espace-là résonne au bon endroit. Pas qu'il devienne explicite, mais qu'il résonne, qu'il mette en travail ce bon endroit-là. Hein, si on a le temps, on y reviendra. Ensuite, bah, qu'est-ce qui se passe? Bah, le bzou, bien sûr, va tuer la grand-mère, et là, on a le rituel du cochon. Il y a un très bon technicien. Hein, voilà, il découpe en dés, il met le sang dans la bouteille pour faire le boudin. Voilà. Et donc, il va vraiment préparer la grand-mère comme on prépare le cochon.